VOA Afrique, les infos. À Washington, Nathalie Barre.
Il est 17h à Bamako, 18h à Bangui et 19h à Bujumbura. Nouvelle journée de manifestation au Burundi. Un manifestant est tombé sous les balles de la police ce vendredi dans le quartier de Muzaga, dans la capitale Bujumbura. Des détails avec Issia Kaba.
Selon des témoins, plusieurs centaines de personnes ont tenté de se regrouper dans ce quartier considéré comme l'un des foyers de la contestation contre un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. La victime a été tuée par une balle tirée par la police. Il est mort alors qu'il était pris en charge par la Croix-Rouge. Après plus d'un mois de manifestations quasi quotidiennes, émaillées de violence, la police burundaise est parvenue depuis mercredi à étouffer quasiment tout regroupement de protestation dans les quartiers de Bujumbura. Sur le plan politique, la question de la légitimité du troisième mandat est derrière nous, affirme à VOA Afrique, Willy Nyamitwe, conseiller de la présidence. Pourtant, hier encore, c'est Kofi Annan qui s'est fait entendre. L'ancien secrétaire général de l'ONU a demandé au président burundais de renoncer à son projet. L'opposition, de son côté, a rejeté hier Saïdi Djinit comme médiateur dans cette crise. Le représentant du secrétaire général de l'ONU dans la région des Grands Lacs est jugé trop conciliant sur la question du troisième mandat. En attendant, les Burundais attendent toujours de connaître le nouveau calendrier électoral. Un report des élections jusqu'à mi-juillet devrait être entériné conformément aux recommandations des chefs d'État de l'Afrique de l'Est à Dar es Salaam.
Plus de 150 personnes ont péri dans l'incendie d'une station-service mercredi soir dans le centre d'Accra, la capitale ghanéenne. Lundi débutera un deuil national de 3 jours. L'incendie a causé l'explosion des pompes à essence et la mort de nombreuses personnes qui s'y étaient abritées des pluies torrentielles à l'origine d'inondations dans la ville. Le président John Dramani Mahama est revenu sur place vendredi en compagnie du président du Togo, Fournia Singbe. Les deux chefs d'État ont visité la scène du drame et un hôpital, alors que les secours et des bénévoles continuaient d'aider les riverains et les personnes déplacées par la catastrophe. Aux discussions d'Alger sous l'égide de l'ONU, les rebelles à dominante Touareg du Mali ont convenu de signer le 20 juin à Bamako l'accord de paix et de réconciliation avec le gouvernement malien. C'est ce qu'a annoncé le leader du groupe, Bilal Hag Cherif. Des précisions avec Lionel Gaïma.
Nous signerons l'accord de paix le 20 juin, a assuré Bilal Hag Cherif aujourd'hui à Alger. En attendant, l'émissaire de l'ONU, Mongi Hamdi, a fait savoir de son côté que les deux partis étaient parvenus à un accord de cesser le feu dans la ville septentrionale de Menaka, avec le retrait de groupes armés pro-Bamako de la zone pour être remplacés temporairement par les troupes onusiennes. Un deuxième texte politique traite de certaines demandes de la coordination des mouvements de l'Azawad. Nous signons deux textes aujourd'hui, un sur la sécurité, un sur la politique, qui permettront à la coordination d'aller de l'avant et de signer l'accord final, je l'espère, le 20 juin à Bamako, a déclaré à Reuters Mongi Hamdi avant une cérémonie de signature à Alger. Des groupes armés pro-gouvernementaux ont repris Menaka aux séparatistes en avril dernier, lors de violents combats qui ont compliqué les efforts internationaux pour obtenir un accord de paix final. Le gouvernement malien a accepté un accord sous l'égide de l'ONU en mars dernier, mais la coalition rebelle a retardé une signature définitive.
Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a dénoncé ce vendredi les abus systématiques commis dans la région du lac Tchad par les salafistes armés et les militaires nigérians. Zeid Raad Al Hussein affirme que des civils dans le nord-est du pays ont vécu des actes terribles de cruauté et de violence commis par Boko Haram, dont des meurtres, des exécutions sommaires, des participations forcées à des opérations militaires, y compris l'emploi d'enfants pour faire exploser des bombes. Le travail forcé, les unions forcées et les violences sexuelles. Mais il y a également eu des rapports alarmants de violations flagrantes commises par les militaires nigérians, selon le haut-commissaire, qui appelle le nouveau président Muhammadu Buhari à prendre des mesures urgentes pour traduire en justice les auteurs de ces violations des droits humains, qu'ils soient ou non des fonctionnaires de l'État, selon ses termes. Au Congo, Brazzaville, des milliers de lycéens ont provoqué d'importants dégâts dans la capitale aujourd'hui en manifestant leur colère contre l'annulation des épreuves du baccalauréat avant d'être dispersés par la police. Des précisions avec Jean-Roger Bion.
À Pointe-Noire, dans le sud du Congo, des saccages similaires à ceux commis dans la capitale ont également été signalés pour les mêmes raisons selon des témoins. Les épreuves du baccalauréat ont commencé mardi dans tout le pays, mais un communiqué lu ce matin sur les médias d'État a annoncé que l'examen était annulé pour cause de fraude massive. Des milliers de candidats ont appris l'annulation alors qu'ils étaient déjà dans leur centre d'examen. Les candidats ont brisé les portes et fenêtres de leurs établissements et ont caillassé des voitures selon des sources proches de la direction de la surveillance du territoire. En fin de matinée, la cour du ministère de l'enseignement primaire et secondaire était jonchée de pierres lancées par les élèves en colère. Dans le parking du ministère, un véhicule caillassé a perdu toutes ses vitres. Une partie du portail de la direction des examens et concours a été défoncée. Le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, Elot Matson Mampouya, a annoncé à la presse qu'une nouvelle date serait fixée ultérieurement pour le baccalauréat.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Le dialogue politique entre les partis en conflit en Libye va reprendre lundi au Maroc, annonce l'ONU au lendemain d'une rencontre à Alger entre des responsables libyens qui ont appelé à la formation rapide d'un gouvernement d'union nationale. La rencontre à Skhirat permettra de débattre d'un nouveau projet d'accord élaboré à partir des dernières remarques en date des partis. L'ONU tente depuis des mois de trouver un compromis permettant la formation d'un gouvernement d'union nationale. La rébellion chiite au Yémen a accepté ce vendredi de participer à des pourparlers avec le gouvernement à Genève, des discussions initiées par l'ONU pour tenter de mettre fin à la guerre qui ravage ce pays de la péninsule arabique. Aucune date n'a été fixée officiellement, mais selon des sources à New York, elles débuteront le 14 juin. Les principaux objectifs sont de mettre en place un cessez-le-feu, un plan de retrait des rebelles des zones conquises et une augmentation de l'aide humanitaire. Le secrétaire général adjoint de l'ONU aux affaires politiques, Jeffrey Feltman, a appelé aujourd'hui les partis en conflit en Ukraine à respecter totalement le cessez-le-feu prévu dans un accord de paix conclu à Minsk en février dernier. Monsieur Feltman a par ailleurs souligné que la protection des civils doit être une priorité lors d'une réunion convoquée d'urgence du Conseil de sécurité en raison du regain de tensions. Devant les 15 membres du Conseil, réuni à la demande de la Lituanie, le responsable onusien a dit redouter l'aggravation d'un conflit difficile à gérer, selon ses termes. Sur le terrain, les combats se poursuivent, mais de moindre intensité par rapport à mercredi, le jour d'une offensive meurtrière des séparatistes contre la localité de Marinka, selon Kiev. Aux États-Unis, l'Office of Personnel Management, l'OPM qui gère les effectifs du gouvernement fédéral, a indiqué que les données personnelles d'environ 4 millions d'employés actuels et anciens auraient été compromises. Des précisions avec Camille Gros-Didier.
Cette cyber-intrusion aurait été fomentée en décembre par des pirates informatiques chinois, peut-être liés au gouvernement au pouvoir à Beijing, a expliqué l'OPM. Hong Lei, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a réagi avec virulence vendredi, fustigeant des accusations irresponsables. De telles attaques sont en général anonymes et il est difficile d'en déterminer les origines, a-t-il poursuivi. À Washington même, un porte-parole de l'ambassade de Chine, Zhu Haikan, a souligné que la Chine a interdit le piratage informatique. Tirer des conclusions hâtives et lancer des accusations sur la base d'hypothèses sont irresponsables et contre-productifs, a-t-il déclaré dans un communiqué. OPM précise avoir détecté les pirates en avril. Le FBI, la police fédérale et le département de la sécurité intérieure ont lancé une enquête.
Les services d'ambulance anglais ont découvert 68 personnes enfermées dans un conteneur dans le port de Harwich hier soir. 7 personnes ont été hospitalisées, dont 2 femmes enceintes. Les 61 autres ont été remises au service d'immigration. Les hommes et femmes retrouvés enfermés sont de nationalités différentes en provenance des Pays-Bas. Et en Turquie, le quotidien Cumhuriyet défraie la chronique. Le journal affirme en effet que le gouvernement Erdogan avait facilité l'entrée des combattants djihadistes en Syrie. Voilà pour ce bulletin dans 20 minutes Le Monde aujourd'hui avec Nicolas Pinault et Salwa Jafari.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.